Un jardin, c'est un lieu de dialogue avec la nature. L'homme est là, et il est partout sur la planète, comme il est partout sur son jardin.
CO2, mon amour.
Le jardin est le lieu de l'origine du brassage planétaire. Il est né avec la sédentarisation. Quand on cesse d'être nomade, on fabrique un jardin. Et on met, dans un espace qui est protégé, des plantes que l'on allait autrefois chercher.
Denis Chesson.
Le jardin, pour moi, c'est l'espace d'une compréhension du lieu dans lequel nous nous trouvons.
La voix de Gilles Clément, que vous retrouverez donc d'ici quelques minutes dans ce magazine de Nature et d'Environnement. Bienvenue à tous, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. C'est donc CO2 Mon Amour, avec Ludovic Asselot et Arnaud Caillet à la technique, et assisté de Claire Destacan, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Certes, jardin à la française, bon, terrain de football et biodiversité, je vais peut-être pas risquer un rapprochement parce qu'à mon avis, il y en a quand même relativement peu. Avec le glyphosate, tout va bien. La Commission européenne pro-chimie, donc 18 ans de sursis pour... 18 mois de sursis pour le soldat glyphosate. Et puis, bon, je rappelle simplement que les sols, les eaux, dont, et après les méfaits sont payés bien sûr par la collectivité, mais ça rentre pas en ligne de compte. Non, avec mon copain en fait, Albert Houck, jardinier de Meaux dans le Maine-et-Loire, on a trouvé un peu cette information qui est pas inintéressante et qui a un rapport avec le jardin. Parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé du purin d'ortie et autres préparations naturelles peu préoccupantes, c'est-à-dire les fameuses PNPP, chères aux jardiniers qui ont renoncé au napalm pour entretenir leur carré de laitue. Bon, on croyait que cette guerre de l'ortie, que dans cette guerre de l'ortie, le front s'était stabilisé, notamment avec la publication par le ministère de l'Agriculture au journal officiel du décret reconnaissant les PNPP comme biostimulants et non plus en tant que produit à usage phytopharmaceutique. Bon, ce qui évite désormais, pour vendre ces recettes transmises depuis toujours de jardinier à jardinier, d'avoir recours à la procédure coûteuse et inadaptée d'autorisation de mise sur le marché. Bon, naïvement, on pensait qu'avec ce décret, on risquait plus de prendre 50 tôles à fabriquer sa décoction de prêle ou son purin de consoude. Eh ben, pas du tout. Car la multinationale Scotts, qui commercialise une foule de produits que l'on vous déconseillera d'avaler à la petite cuillère, contre-attaque Bayonet au canon. Ce géant de l'agrochimie vient en effet de menacer, en termes à peine voilés, la société DCM, un petit distributeur de purin d'ortie, des pires ennuis si l'étiquetage de ces produits n'était pas modifié. Il ne devait pas être précisé en effet que le purin d'ortie agit directement sur les maladies des plantes ou les insectes qui les agressent, mais de manière préventive. Alors la société Scotts oublie au passage d'intégrer qu'un délai d'un an a été accordé pour mettre en conformité l'étiquetage des PNPP avec les nouvelles dispositions réglementaires. Mais que voulez-vous? Quand on en a déjà pignon sur rue, on tolère mal qu'un concurrent vienne édifier sous vos fenêtres une simple cabane de jardin. Il y a bien y regarder, on se dit que les marchands de pesticides ont tout de même la fâcheuse tendance à pousser non seulement mémé, mais aussi le jardinier dans les orties. Ah bah oui, vous l'avez entendu, cette information nous a réjouis, celle-là aussi, hein, Renette ou Crapaud qui nous écoutait, du verbe coasser, accuser, levez-vous. Un couple de Dordogne est condamné à combler sa mare après plainte des voisins, saoulés par la mélopée, certes répétitive, faut bien l'avouer, des batraciens. Bon, et donc nos grenouilles émettaient autant de décibels qu'une machine à laver ou un aspirateur. Mais voilà, donc après les sonnailles des vaches, les cloches d'église à qui on coupe les cordes vocales, et bien encore un syndrome d'une société qui va bien, en phase avec la nature. Donc, au lieu de 60, vous êtes prié de brider le chant de vos grenouilles à 30 décibels. Après, vos gueules les mouettes, c'est silence les grenouilles. Puisqu'on est dans les animaux, j'y reviendrai la semaine prochaine. Vous ne connaissez pas forcément la grive à pattes jaunes. Non, elle se trouve entre autres en Guadeloupe. Elle est extrêmement menacée. Elle est flinguée merveilleusement par les chasseurs qui s'en foutent. Voilà. Et donc, il y a une pétition qui circule, qui est sur le site aussi de CO2 Mon Amour. Regardez-la, signez-la, parce qu'il faut la signer en gros avant le 15 juin. Et voilà, c'est une espèce qui est protégée, mais on en fait quand même assez fi. Donc, regardez cela et j'y reviendrai aussi la semaine prochaine. L'actualité, bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou, j'ai envie de faire croix avec vous.
Mais croissez de
solidarité.
Croissez de plaisir, croissez de joie, cher Frédéric. Donc on va s'intéresser, on a une actualité qu'on trouve très 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 intéressante, aussi bien politiquement que d'un point de vue environnemental. C'est en fait EDF qui nous incite à autoconsommer notre électricité que l'on va pouvoir produire avec les panneaux solaires. Racontez-nous. Donc il y a My Power, donc ça c'est leur générique à eux. C'est Engie, c'est le concurrent. C'est Mon Soleil et Moi,
Voilà, c'est Mon Soleil et Moi et Engie qui en même temps sort un My Power.
Alors donc aujourd'hui, on a 330 000 particuliers qui produisent et en grande quantité donc revendent leur électricité avec des panneaux solaires, 25 centimes du kilowattheure. Sur les 330 000, il y en a 30 à 40 000 qui autoconsomment et 15 000 qui sont en autonomie, qui eux ne sont pas reliés au réseau. Qu'est-ce que cela remet en cause? Donc je disais, à la fois environnementalement et politiquement.
C'est quand même très intéressant parce que jusqu'à présent EDF et ERDF, qu'on appelle maintenant Enedis, refusaient d'entendre parler d'autoconsommation. Pourquoi ? Parce que culturellement, ça gênait cette centralisation absolue qui est le cœur même de notre réseau. C'est-à-dire on a quelques centrales nucléaires, des gros tuyaux bien épais qui relient ces centrales aux transformateurs et des transformateurs en moyenne tension jusqu'à chez nous. Et ça, culturellement, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que ce principe de la centralisation, on commence à considérer chez EDF que c'est pas l'alpha et l'oméga de la production et du transport de l'électricité, parce que finalement chaque citoyen est peut-être capable de produire lui-même son énergie et surtout de l'autoconsommer. Vous savez, le mot autonomie en France, il est pas bien en cours, hein. C'est vraiment un changement culturel important.
Il est très encadré lorsqu'il arrive, hein, ce mot d'autonomie.
Oui, alors c'est très encadré, certes, mais quand même, là, on ouvre les portes,
oui,
alors timidement, certes, hein, parce que EDF espère que 3000 foyers accepteront d'autoconsommer une grosse partie de leur autoproduction à l'année. Ça remet pas en cause le schéma global, mais c'est quand même une avancée.
3000 tous les ans, c'est ce qu'ils souhaiteraient, à peu près.
3000 tous les ans, ce qui ferait une puissance installée de 10 mégawatts tous les ans, mais derrière tout ça, il y a aussi sans doute un message politique qu'on voit assez bien. Vous savez, EDF est au bord de la faillite, l'électricité nucléaire va coûter de plus en plus cher. EDF a demandé aux gestionnaires du réseau, aux gestionnaires politiques du réseau, enfin politiques tout simplement, d'avoir une augmentation de 30% en 2017 qui ne leur sera pas accordée. Donc en fait ça veut dire la facture va augmenter, mais pour compenser, vous, consommateurs, on va vous autoriser à consommer ce que vous produisez, et plus il y en aura, plus la facture de l'augmentation de la production d'électricité passera mieux. D'un point de vue social, le message est assez clair, et ça signifie, je pense aussi, ce revirement culturel, ça signifie que l'électricité pas chère, c'est terminé en France. Elle ne peut qu'augmenter, et donc pour compenser socialement, on autorise, on ouvre la porte de l'autoconsommation. Ça veut dire que l'électricité, de toute façon, sera de plus en plus cher en France.
Ça, on le dit à peu près depuis 5 ans avec vous, Frédéric, dans cette émission. 2,3% d'électricité consommée en Allemagne, qui, évidemment, le tarif de l'électricité est deux fois et demi plus cher aujourd'hui en Allemagne,
il faut le rappeler. 1% en Italie d'autoconsommation, où l'électricité est trois fois plus chère. En fait, vous avez raison de le dire, Denis, si on n'autoconsomme pas en France, c'est un, parce qu'on a l'électricité la moins chère d'Europe, et que le tarif de rachat par EDF de l'électricité produite par nos auditeurs qui ont des panneaux photovoltaïques sur le toit était le plus important d'Europe. Or, ce tarif de rachat a baissé et le tarif de base vendu par EDF ne peut qu'augmenter. Donc ça commence à devenir rentable de consommer ce que l'on produit plutôt que de vendre sur le réseau ce que l'on produit. Donc il y a aussi une affaire économique dans tout ça.
Bien, écoutez, on fera un focus aussi sur les professionnels, parce que là on a beaucoup de surface de toit sur les grandes surfaces, mais on y reviendra donc avec vous, cher Frédéric. Bon, Jean-Marie Pelt, évidemment vous connaissez, parce que j'avais envie...
Évidemment, et on l'aimait, Jean-Marie Pelt.
Et voilà, et donc cette séquence, on va dire, jardin. J'ai retrouvé un son que j'avais pas du tout encore diffusé, parce que j'en ai quand même un certain nombre qui n'ont pas été diffusés encore, avec Jean-Marie. Et alors là, c'était le matin, c'était très très tôt, je l'avais secoué, c'était pas simple.
Alors là, c'est le petit matin, Jean-Marie, vous n'avez pas forcément l'habitude. Hein,
donc c'est tôt. Oui,
moins de 7 heures, là, vous voyez.
Ah là là, c'est épouvantable. Oh, c'est une cruauté extrême.
Oui.
Je me sens victime.
Mais malgré tout, puisqu'on vous a fait lever, dans votre bol de nature, que mettez-vous? Parce que nous sommes chez vous, là, dans votre jardin.
Et à 6 heures du matin, 6h30, là, il fait encore jour.
Oui.
Alors, il fait déjà jour. Alors, les petits oiseaux sont là. C'est mes petits oiseaux, c'est mes petits merles et c'est mes petites mésanges. Et puis j'ai un merle qui danse, c'est une chose étrange comme tout. Il fait des danses comme les derviches tourneurs, vous savez, en Turquie. Mais ils dansent comme ça, comme les chiens quand ils se mordent la queue, qui tournent en rond en se courant après leur queue. Et bien il fait ça, le petit merle. Et je trouve ça très beau. Et les petites mésanges, elles grimpent sur le chambranle de la fenêtre et elles viennent regarder ce que je fais. Alors je leur ai dit, regardez, j'écris. Voilà.
Oui.
Et ça les intéresse beaucoup.
Bien sûr.
Beaucoup, beaucoup. Elles sont passionnées.
Et puis elles ont appris à lire et à écrire.
Ah ben, bien entendu. On les a formées.
Uniquement les gros titres. Hein,
c'est ça. Oui. Et puis alors il y a les fruits.
Alors,
alors il y a les quetsch, qui sont des prunes spécifiques de la Lorraine, qui sont des prunes violettes, avec lesquelles on faisait autrefois de l'alcool, de l'eau de vie. Ah, maintenant, on n'a plus le droit, parce que maintenant, il s'est contingenté. Et on n'a plus le droit de faire de l'eau de vie à l'œil avec ses propres fruits.
Voilà, alter-alcoolisme, c'était
oui,
ça.
C'était ça, tout à fait.
Puis Jean-Marie, il y a les noyers.
Oui, il y a les noyers, bien sûr, auxquels on est très attaché. Il y a les pêchers de vignes, et puis c'est la nature.
Ouais.
Et on a besoin de ça. Moi, je ne peux pas vivre si je suis séparé de la nature, je ne pourrais pas exister. Je serais dans une sorte de claustrophobie, voilà, la nature c'est l'ouverture vers ce qui est plus grand que nous, et c'est ce que nous n'avons pas créé, nous. Et nous devons donc être modestes, parce que c'est pas nous qui avons fait la nature. Alors nous sommes très 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 fiers de nos technologies, mais la nature c'est bien aussi.
Jean-Marie, dans une société à la fois technicienne et qui est fondée sur l'économie aujourd'hui, le PIB, la croissance, que sais-je, quel peut être le signal envoyé par la nature?
Le message, c'est que il faut pas la regarder seulement sur des écrans. Il faut aller dedans. Il faut ressentir le souffle doux de la brise, ce petit bruit très 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 doux qu'on entend quand on est dans un jardin, le chant des oiseaux, la beauté des fleurs, être dedans. C'est ça qui est important, parce qu'on en est très coupé. Notre génération est coupée de la nature. Nous sommes dans la précipitation, nous ne sommes pas dans les rythmes de la nature du tout, du tout, du tout. Nous sommes dans une agitation perpétuelle, une fébrilité extraordinaire, ce qui est contre nature. Et nous devons essayer de nous mettre avec la nature, et pas contre la nature.
Être exploitant, mais pas exploiteur.
Exploitant et pas exploiteur, absolument.
Bon, merci Jean-Marie pour ce petit bol de nature.
Voilà, merci.
Évidemment, c'était délicieux, c'était au mois de juillet dernier avec Jean-Marie Pelt. Alors à suivre, Gilles Clément, le comédien Michael Lonsdale, nous irons dans les Jardins d'Orient avec Agnès Carayon et puis le pianiste aussi Patrick Scheider.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin.
Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver, mon jardin. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver, dans mon jardin d'hiver.
Jardin d'hiver, revu et visité avec pas mal de talent par Pauline Croze.
Oh, ces fleurs blanches. Oh, des pommiers.
Bah, les pommiers sont des poiriers, ma petite poupée, ça.
Ah. Oh, des salades. Tu sais que j'ai jamais vu des salades plantées.
CO2, mon amour.
Il n'y a pas de poire.
Ah bah non, pas encore, fin juillet.
Mais ni pommes ni poires sur aucun arbre.
Je dis, bah non, écoute, réfléchis un peu. Ils sont même pas encore complètement en fleurs.
Avec Denis Chessou sur France Inter.
Ah ben oui, mais c'est comme le rythme des saisons. Les pommes, c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Jardin bien-être, nourricier à la française, à l'anglaise, jardin d'Orient. Nous allons donc gratter la terre parce que le jardin nous ressemble tous, quelle que soit notre culture, nos croyances ou nos métiers. C'est ce qu'on peut appeler ça un lieu de paix active. Et alors, j'ai entre les mains un ouvrage qui s'appelle « Des jardins et des hommes » aux éditions Bayard. Il a été signé par Jean-Marie Pelt, il a été signé par Michael Lonsdale, par Patrick Scheder et aussi par Gilles Clément, donc le créateur des jardins en mouvement et du jardin planétaire. Oh, belle chanson. C'est bien le manque d'huile. Ça fait chanter des petites portes comme ça. Bon, c'est pas mal, on se dirige vers la Creuse, vers une rivière que vous connaissez. Bonjour Gilles Clément.
Bonjour.
Alors Gilles Clément, parlez-nous s'il vous plaît un peu de ces jardins. C'est-à-dire que quand on parle de jardin à la française, qu'est-ce que c'est un jardin à la française?
Un jardin à la française, c'est un jardin qui conduit le regard. Il faut donc des perspectives construites la plupart du temps avec des végétaux, pas toujours, hein, mais c'est quand même majoritairement, et qui joue le rôle que peuvent jouer des œillères, par exemple, pour que le regard s'en aille dans une seule direction. Et c'est évidemment très calculé et très dessiné. Quelquefois, ça va jusqu'à l'horizon. C'est à Versailles qu'on trouve ça. C'est assez rare d'avoir une vue qui s'en va aussi loin. Mais ça exprime cette idée que on voit et on maîtrise, on a le pouvoir, jusque-là et même peut-être au-delà. Donc c'est l'expression même de la tenue dans l'espace et de la maîtrise et du pouvoir. C'est très particulier, il y a un contrepoint à cette construction qui se passe dans l'ensemble des bosquets qui construisent l'architecture de l'espace et dans lesquels se trouvent ces grandes perspectives, ces grandes directions, souvent des lignes droites. Hein. Et là, on peut se dire que oui, il y avait la folie, il y avait peut-être le jeu, les ébats, tout un tas de choses qui aujourd'hui n'existent plus. Quand on visite Versailles, il nous manque quand même la musique et les perruques. Hein. Il y a quelque chose qui manque. Alors on ne sait pas trop ce qu'on fait là.
Alors on traverse le Channel. Le jardin à l'anglaise, qu'est-ce que c'est?
Ah, alors c'est une vision qui n'est pas exactement romantique. de la nature. Hein. C'est quelque chose qui a plus de souplesse et qui introduit petit à petit. Il y a une phase copiée sur le jardin classique en Angleterre, hein, enfin, classique à la française, et qui se déforme petit à petit avec des niveaux, des terrasses, dont une, la dernière, qui aboutit à ce qu'ils appellent le Wild Garden, qui est un jardin sauvage, entre guillemets, parce qu'il n'est pas très sauvage. Et en général, il ne l'est jamais dans tout le reste de l'espace du jardin anglais, mais il y a quelque chose, il est très très maîtrisé quand même, mais il y a quelque chose de très particulier qui n'existait pas du tout dans le jardin à la française, c'est une diversité floristique qui apparaît notamment au 19e siècle avec Robinson, dans la série des plantes vivaces provenant du monde entier. Et ça crée des jardins extraordinaires.
Mais que veut-on affirmer? Autant que le jardin à la française, on voulait quand même affirmer son pouvoir, sa magnificence et donc son goût de l'ordre. Qu'est-ce qu'on affirme avec un jardin à l'anglaise?
De toute façon, on affirme son pouvoir aussi, mais on l'affirme autrement et pas du tout avec la même volonté, rigueur. On n'est pas dans le monde cartésien, on n'est pas dans la logique linéaire, on est dans une autre logique, mais on a aussi la limite du territoire avec les AA qui sont des grands fossés. Il y a quand même une marque du Lord sur son terrain.
Ouais.
C'est le territoire agricole, et forestier, paysager. Il est complètement investi à toutes sortes de niveaux. On trouve des œuvres d'art éloignées dans la campagne, dans les cultures. Au milieu d'un mouton, vous allez avoir une sculpture d'un artiste contemporain, ce qui n'est pas le cas chez nous.
Les Anglais ont cette culture quand même profondément, sans jeu de mots, enracinée. Ils aiment profondément quand même les jardins, même s'ils n'en ont pas.
Oui, et ils connaissent le nom des plantes. Ça, c'est une chose que nous n'avons pas du tout développée, ou très très peu. Mais c'est quelque chose qui leur donne un comportement face à la nature que nous n'avons pas forcément.
Alors là, on va prendre le petit portillon. Hop là, on va pas le prendre, on va l'ouvrir. Et on arrive face à la Creuse, qui est belle, qui est opulente. Là, on est du côté du Blanc, donc autrement dit, elle est déjà passée hein, devant chez vous. C'est
oui.
Ça, du côté de Crozon.
Oui, oui, oui.
Un jardin pour Jules Clément, qu'est-ce que c'est?
Un jardin, c'est un lieu où le jardinier peut se sentir en équilibre. Par hasard le retrouver s'il l'avait perdu. C'est un lieu de remise en état du corps et de l'esprit. C'est un lieu de dialogue avec la nature. Le dialogue, il est le contraire de l'idée de la maîtrise. Il signifie qu'on a tenté de comprendre comment fonctionnaient les êtres vivants qui sont là avec nous, qui sont des plantes et des animaux, et comment on fait pour dialoguer avec eux, en vue aussi d'en tirer un profit. On ne peut pas faire autrement, nous sommes des prédateurs, même si on ne veut pas, quoi. Les plantes ne sont pas prédatrices. Les plantes sont autotrophes. Elles fabriquent leur nourriture à partir de l'énergie solaire. Les animaux et nous sommes tous des prédateurs, nous sommes hétérotrophes, nous consommons, nous allons chercher. Alors nous sommes donc dans cette obligation dans le jardin, pour le jardin potager, par exemple, de cultiver ou d'aller cueillir, chercher, etc. Mais si on le fait en comprenant comment la plante que l'on exploite peut survivre dans le temps, c'est bien. Si on le fait sans détruire ce qui se trouve autour de cette plante que l'on cultive, c'est bien. Si on ne fait pas attention à tout ça, on rentre dans un mécanisme terrible qui détruit tout, y compris l'espace dans lequel se trouvent les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire toutes sortes d'êtres qui peuvent être des minuscules insectes, comme quelquefois même des oiseaux, hein, ou des hérissons, tout ce qu'on voudra, et qui travaillent avec nous et pour nous sans que nous en rendions compte. Eux non plus, ils ne savent pas, mais enfin, c'est pas grave. si on détruit ça, alors on se prive d'une gratuité offerte par la nature, stupidement. Voilà, donc le jardin, pour moi, c'est l'espace d'une compréhension du lieu dans lequel nous nous trouvons. Tout le monde n'a pas un jardin, mais s'il y a tant de succès pour le jardin, aujourd'hui même dans les villes, il y a 100 jardins partagés quand il y en avait un il y a 10 ans, dans Paris par exemple, ça veut dire que les gens y trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et moi, quand je dis le jardin planétaire, la Terre, c'est un jardin. C'est pas une métaphore, c'est un constat. Les raisons, il y en a trois. La première raison, c'est la couverture anthropique, c'est-à-dire l'homme est là, et il est partout sur la planète, comme il est partout sur son jardin. même dans les endroits du jardin où il ne va pas, il sait que ça existe. Là où nous n'allons pas sur la planète, nous avons des drones, nous avons des satellites, nous avons des surveillances, nous avons de toutes sortes de choses, nous savons, nous sommes là. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire. Le jardin est le lieu de l'origine du brassage planétaire. Il est né avec la sédentarisation. Quand on cesse d'être nomade, on fabrique un jardin. Et on met dans un espace qui est protégé des plantes que l'on allait autrefois chercher. Donc on les amène de loin. Brassage planétaire.
Le troisième point,
c'est la définition du mot jardin, qui signifie enclos. Le jardin est un lieu qui est créé avec un système tel que les prédateurs ne puissent pas venir. En tout cas, on essaye. Donc c'est très très protégé et très très surveillé. C'est juste limité en tout cas. La planète aussi. La vie sur la planète est limitée aux limites de la biosphère. C'est pas beaucoup. C'est 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8 000, 10 000 en dessous du niveau. Voilà.
C'est une pellicule d'œuf.
C'est une pellicule d'œuf. Voilà, c'est ça exactement. Là-dessus se développent toutes ces espèces. C'est admirable de penser qu'il y en a tant sur un si petit milieu. Et c'est clos. Donc nous sommes dans un jardin.
Aujourd'hui, Gilles Clément, quelles sont vos interrogations et peut-être vos craintes et en même temps vos espoirs par rapport donc à ces problèmes qui touchent à la survie quand même d'une partie de l'humanité?
Moi, mon inquiétude, c'est la rupture d'un équilibre qui existait jusque dans les années 80 pour tout confier dans les décisions de l'action humaine à la seule finance, qui fait pression sur n'importe quel système. Il n'y a plus aucun projet politique, et même s'il y a un certain pouvoir qui vient de l'accroissement de la connaissance par l'éducation, l'accès à une autonomie individuelle, elle n'est pas si évidente, et la décision de faire quelque chose qui est utile aux autres et à la vie en général n'est pas si facile. Il y a en tout cas un désintérêt de tout ce qui se passe et qui vient d'en haut, et en particulier de toute la pression de la finance, pour inventer une autre économie. Tout ça doit pouvoir s'accompagner d'un accroissement de la connaissance sur juste le lieu où nous sommes. Où sommes-nous? Ah, qu'est-ce que c'est que le nom de cette plante? Mais qu'est-ce que fait cette libellule-là? Comment se fait-il qu'on ne connaisse pas le nom de cet insecte alors qu'il joue un rôle très important? Je ne dis pas la libellule, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais la larve de libellule, personne ne la connaît. Pourquoi? Elle va dans l'eau, pourtant elle est dans des petits bassins que les enfants regardent et ça les intéresse. Et ils vont peut-être voir la mue, comment ça se passe, cette exuvie, et d'où va sortir cet insecte extraordinaire. Et est-ce qu'on peut leur expliquer ça? Et leur dire c'est une larve carnivore, elle mange les larves de moustiques, c'est intéressant pour nous. Ouais. L'écologie, ça commence par là. Ouais. C'est une relation entre les êtres. Mais où habitons-nous? Comment peut-on nous asséner des ordres de vie dans un territoire que en nous disant voilà ce qu'il faut faire, arbitrairement? Il faut que vous consommiez ça, un 4x4 pour aller dans la ville, mais à quoi ça sert? On ne sait même pas où on habite. C'est complètement stupide.
Donc merci de nous avoir rappelé qu'on ne vit pas hors sol.
On ne vit pas hors sol.
Là aujourd'hui, sous les yeux, donc cette Creuse, qui, je ne veux pas dire qu'elle divague, parce que là, elle est très calme, elle ne méandre pas beaucoup, elle s'est affolée un petit peu plus en amont. D'ailleurs, son nom indique bien son geste, verbe creuser, donc c'est véritablement cela. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce mariage entre la rivière, la ripisylve, et tout ça forme un moment de vie, quoi?
Oui, il y a avec les ripisylves une marque particulière du paysage où les hommes interviennent très très peu, et donc ça donne un caractère intéressant quand on est sur la rivière, dans certains endroits de la Creuse, mais il n'y a pas que la Creuse, on ne sait pas où on est. On pourrait se dire, tiens, je suis en Amazonie, et si on fait un peu d'imaginaire, parce qu'on ne voit pas la civilisation qui est derrière cette ripisylve, on ne voit pas les cultures, les maisons, on ne voit rien.
Ah tiens, bonjour monsieur Lévi-Strauss, ben voilà.
Voilà. Et ça, c'est assez merveilleux. Il y a le mystère de l'eau, parce que c'est une eau ferrugineuse du fait qu'elle traverse des régions qui ont cette charge chimique, mais aussi le tannin des chênes, enfin tout dans cette eau qui est légèrement acide, tout ça se dilue, reste, ça fait une couleur, on dirait du thé. On n'est pas dans les eaux calcaires transparentes de l'Hérault ou de ces régions-là. Et il y a un mystère, il y a des gens qui détestent. Moi, je trouve ça assez beau. En plus, ça a un autre intérêt, c'est que comme elle est sombre, elle se chauffe vite et on peut se baigner tôt et longtemps. Donc c'est pas mal.
Bon, bah écoutez, on vous souhaite le meilleur et puis à très bientôt. Et merci, Jules Clément.
Merci, Denis. Au revoir.
Toujours un plaisir de rencontrer, bien sûr, Gilles Clément. Et donc, dans cette suite de C'est haut de mon amour sur France Inter, je vous l'ai dit, hein, cet ouvrage, donc Des jardins et des hommes chez Bayard, signé quatre mains avec Jean-Marie Pelt et Michael Lonsdale, que j'ai rencontré. Alors là, c'était peut-être moins bucolique parce que là, vous l'entendez, on est dans un bistrot, on est près des Invalides, nous sommes à Paris. Petite bourgade. Et donc, l'homme, le comédien que nous connaissons, donc à la fois des dieux et des hommes, il était aussi l'acteur de Marguerite Duras, mais il n'a pas fait que ça, il a fait James Bond, il a fait Moonraker, il a fait Au nom de la rose, moi j'en oublie plein, Hibernatus, et il a toujours aimé la nature. Alors Michael Lonsdale, quelle est l'importance de cette nature dans votre vie?
C'est beaucoup de choses dans ma vie. Oui, moi j'ai un grand amour des fleurs. Et de la nature, oui, depuis que j'ai été petit.
Est-ce que c'était du côté de Londres, ça, ou c'était où, ça?
Non, pas à Londres, mais c'était à l'île de Jersey, où mes parents avaient un hôtel avec un beau jardin. Évidemment, il y avait la mer pas loin, une plage à perte de vue. Je m'étais fait mon petit coin jardin à moi. Alors, je ne sais pas très bien comment faire. Mais j'aimais bien gratter comme ça, puis je prenais d'autres, puis je repiquais. C'était mon petit jardin secret.
À cette période-là, vous avez commencé à parler aux plantes ou c'est venu après?
Oh non, c'est bien après les plantes. C'est seulement depuis quelques années que je parle aux plantes.
Vous avez sauvé d'ailleurs la plante d'une amie, hein? Vous êtes allé chez...
Eh ben oui, cette malheureuse plante qui était... Enfin, il ne restait plus qu'un bout de bois qui dépassait d'un... Comment ça s'appelle, là où on met les plantes?
Ah ben le pot.
Le pot,
oui.
Un bout de bois vilain comme ça, alors j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ce bout de bois là? Oh, c'est une plante qui donne plus rien. J'ai dit, ah bon, vous êtes sûr qu'elle est morte? Ah bah oui, ça fait plus d'un an qu'elle est comme ça. J'ai dit, mais vous lui avez parlé un peu, non? Bah non, écoute, elle est morte. J'ai dit, ah bah, apportez-la moi. Allez me chercher un verre d'eau. Et j'ai fait mon petit discours à la plante. Et alors je lui ai dit, ben oui, voilà, tu as été dans cette maison très appréciée, une belle plante, on t'a aimé, tout ça, et puis maintenant, tu vois, alors peut-être qu'il y a encore de la vie en toi, je ne sais pas. Et deux jours après, elle m'appelle, elle me dit, mais dis donc ta plante, tu sais qu'il y a un petit machin là qui a percé là un peu vert.
Ça s'appelle un bourgeon, ça?
Oui. J'ai dit, ben voilà, il fallait lui parler, tu vois. J'ai des arbres magnifiques sous mes fenêtres, très hauts, très qui... Moi, je suis au quatrième, et là, ça monte jusqu'au sixième. J'ai tout un jardin, le jardin de l'intendant, là, autour du tombeau de Napoléon. Mais j'aime beaucoup le jardin à l'anglaise. J'aime pas le jardin français symétrique, Versailles, j'aime pas du tout. Toutes ces plantes qui ont été mises en boule et bien carrées, pour moi, ça me fait souffrir. Je n'aime pas qu'on change la forme d'une plante.
Michael Lonsdale, dans cet ouvrage édité chez Bayard, des jardins et des hommes que vous avez donc écrit avec Gilles Clément, avec Jean-Marie Pelt et avec Patrick Scheider, à chaque fois, dans tous les témoignages, le jardin, c'est quand même ce qui relie.
C'est l'installation de quelque chose qui a déjà été créé. Donc le
c'est-à-dire
le,
qui a déjà été créé, parce que c'est
pas la fleur, c'est pas nous qui l'avons créée. Ouais. Elle est comme ça, et les arbres comme ça. Donc c'est nous, la façon dont on les respecte, les considère, les aime, et puis être charmé par la symphonie que c'est, quoi.
Merci à vous, Michael Lonsdale, pour ces mots qui nous font évidemment du bien cet après-midi dans cette émission. Et puis dans quelques instants, je vais vous emmener dans les jardins d'Orient. L'Institut du monde arabe donc a lancé cette magnifique exposition. On va en parler avec Agnès Carayon. Donc une autre manière d'envisager le jardin. Et puisque nous avons quand même un peu évoqué l'Angleterre, me semble-t-il. Allez! En fait, c'est...
un an et un jour, si personne n'est passé, réclamer notre amour au sentiment trouvé. Au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, si personne n'est venu réclamer notre amour au sentiment perdu, au milieu des cartables et des portefeuilles vidés, tu serais bien aimable de venir me chercher. Dans un an et un jour, c'est ce que se disent les clés et les bouquins de poche aux pages déjà cornées. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé, au milieu des portails et des parapluies percés, je serai bien capable de venir te chercher. Dans un an et un jour, c'est ce qu'attendent les cuirs en serviettes et blousons pour enfin ressortir. C'est un compte à rebours pour lunettes de soleil que l'ombre des cartons empêche de voir le ciel. Dans un an et un jour, si personne n'est venu réclamer notre amour au sentiment perdu, au milieu des cartables et des portefeuilles vidés, tu serais bien aimable de venir me chercher. Dans un an et un jour, c'est ce que se disent les clés et les bouquins de poche aux pages déjà cornées. Plus d'écrin, plus de velours, c'est ce que veulent les alliances. On rêvant de main gauche, d'oreiller de confidence.
M'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Faudrait venir l'été. Est-ce que tu peux nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
Eh, pourquoi pas? Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah, merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Ah oui, toujours un extrait de Blié. Ça fonctionne toujours. Oui, tout à l'heure, je vous disais de l'Angleterre, tout ça. En fait, je voulais subtilement vous envoyer un petit Beatles. Et puis, je me suis enduit avec de l'erreur. Et puis, je vous ai envoyé un Art Mingo. Mais ça va très bien. C'est agréable, hein, tant qu'on a que ça comme souci dans la vie. C'est formidable. Nous poursuivons le voyage. On a parlé des jardins à l'anglaise, des jardins à la française. On a parlé avec Michael Lonsdale. Maintenant, on va s'intéresser au jardin d'Orient. On s'intéresse au d'Orient parce que vous avez cette superbe exposition. Jardin d'Orient, de l'Alhambra au Taj Mahal. Donc, il se trouve à l'Institut du Monde Arabe, donc près de la Seine, qui reprend doucement, doucement ses esprits. On a une pensée hier pour celles et ceux qui sont quand même sous l'eau, et on sait que c'est quand même des problèmes extrêmement importants. Jardin d'Orient. Alors, que peut-on dire? Plein de choses. En Orient, entre le Tigre et l'Euphrate, bah, les civilisations, elles sont nées avec les premières cités et aussi avec les jardins. Et alors, je me tournais vers Agnès Carillon, qui est commissaire de cette exposition. Et il faut partir en fait du désert, quand on parle de Jardin d'Orient, partir de l'oasis et de la gestion de l'eau.
Oui, ça c'est vraiment le point de départ de tous ces jardins d'Orient. Il faut savoir que voilà, on se trouve dans des territoires où l'eau est très précieuse. Ce sont des territoires arides et l'oasis est vraiment un havre de paix, oui. De foisonnement d'eau, de foisonnement de végétation. On est protégé du soleil par l'ombre des palmes. Donc c'est le jardin primitif, c'est un jardin naturel, mais c'est le jardin primitif qui a inspiré les hommes, qu'ils ont voulu recréer par la suite en créant des jardins d'agrément de toutes pièces.
Alors 10 000 ans en arrière, donc connaissance de l'agriculture. On voit cette agriculture arriver dans le croissant de la Mésopotamie, donc ce merveilleux croissant agricole et fertile. Ça, c'était à peu près il y a 6000 ans. Mais ce qu'on appelle véritablement le jardin d'Orient, il naît à peu près à la même période ?
Il naît avec les premières implantations humaines. Donc c'est un petit peu difficile de dater avec exactitude les premiers jardins. On sait qu'il y a eu des jardins en Mésopotamie lors du premier millénaire avant notre ère, probablement vers le 7, 8e siècle avant notre ère. On parle des jardins de Babylone, mais on ne sait pas s'ils ont vraiment existé. Mais il y avait, enfin, on ne sait pas s'ils étaient vraiment suspendus, en fait. Oui. Voilà, ça c'est la problématique. Après, on sait qu'il y avait des jardins.
C'est la part du rêve. Hein.
C'est la part du rêve, oui. Tout à fait. Il faut totalement oui. L'assumer et ça vraiment... inspiré de nombreux artistes depuis la nuit des temps. C'est vraiment associé à la ville, le jardin est associé à la ville, il y a les premières implantations humaines et à partir de ces premières villes, les hommes ont voulu créer des jardins à l'intérieur de ces villes.
Ils ont voulu recréer aussi le paradis, le jardin clos. À cette période-là, c'était une image du paradis.
Alors en fait, le terme de paradis vient du mot persan, alors que je ne vous saurais pas vous dire avec
Lancez-vous.
Précision paradisea ou quelque chose comme ça.
Très bien.
Voilà, qui est en fait un jardin clos, effectivement, qui est richement pourvu en végétation et en animaux que l'on peut chasser. Donc ça représente un petit peu, c'est un pays de cocagne, on va dire. Et du coup, de ce foisonnement, on va prendre le terme et on va l'associer à l'Éden, à l'au-delà, à l'endroit où seront accueillis les bienheureux après leur mort.
C'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est toujours très organisé. D'ailleurs, la géométrie a beaucoup d'importance. On la retrouve aussi bien, d'ailleurs, après sur des présentations comme sur des tapis, sur des tableaux, etc. Mais avant tout, c'est une géométrie forte dans un jardin que l'on souhaite domestiquer.
Justement, dans le Coran, quand on parle du jardin du paradis, il y a vraiment une distinction entre la nature, qui est vue plutôt comme hostile, et le jardin, qui est domestiqué. Les arbres n'ont pas d'épines, les fruits poussent, voilà, et on a juste à lever la main pour cueillir un fruit. Donc il y a vraiment cette distinction entre le paradis, le jardin d'Éden, qui est protégé du reste de la nature, qui est plutôt hostile.
Mais on n'était pas quand même dans la même philosophie, on va dire quelques siècles plus tard, à savoir Descartes, qui lui voulait être maître et possesseur de la nature, c'est quand même plus subtil que ça.
Mais c'est une préoccupation qui est très ancienne, hein, en fait. Voilà, en domestiquant la nature, on montre qu'on est le maître de la nature et donc qu'on a du pouvoir. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, les voyages des plantes relèvent de cette même problématique. C'est-à-dire que quand on conquiert une terre, on plante des arbres ou on ramène, justement pour marquer le territoire, pour marquer la conquête, on ramène des arbres, on ramène des plantes pour pouvoir les implanter. Et ça fait partie de montrer son pouvoir.
Alors ces jardins d'Orient, certes, sont jolis. Ils sont faits pour l'œil, mais pas seulement. C'est-à-dire que tous les sens sont en éveil.
Oui, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le jardin d'Orient n'est pas juste un beau jardin. C'est un jardin qui flatte tous les sens. L'odorat est très important. Voilà, les fleurs sont choisies aussi parce qu'elles sentent bon.
Vous avez des cyprès,
voilà,
vous avez des représentations, c'est une merveille.
Voilà, le cyprès, ça sent très bon. Alors, sa structure, c'est un arbre très gracile, très gracieux, qui structure, mais qui également sent bon. Les fleurs d'oranger, voilà, l'oranger, non seulement les fruits sont beaux, ils sont pleins de couleurs, mais ils sont bons à manger. Et les fleurs d'oranger, on a un parfum délicieux. Donc, ça, c'est très important. On a le chant des oiseaux, on a la chance d'avoir quelques oiseaux derrière nous. Ça, c'est une composante essentielle.
Des pigeons, des moineaux, mais c'est
pas grave. Ils chantent, ils sont là, et on a des beaux pigeons.
Allez-y, les passereaux. Rouler.
Mais voilà, les oiseaux sont une composante aussi du jardin avec leur chant. Voilà, le rossignol, le roi des oiseaux pour le chant, fait vraiment partie du jardin. L'eau qui coule, voilà, il y a le murmure de l'eau, ça fait aussi le jardin d'Orient. Et c'est vraiment tous ces sens-là, c'est essentiel. On ne peut pas concevoir un jardin oriental si on n'imagine pas, voilà, les fruits goûteux, les fleurs qui sentent bon et le chant des oiseaux.
Agnès Carayon, le jardin est aussi bien sûr le miroir de n'importe quelle société. N'importe quel gouvernant, que ce soit un jardin à la française, à l'anglaise ou bien donc un jardin d'Orient, c'est le reflet aussi d'une société et c'est le reflet du pouvoir. Donc qu'est-ce que l'on y faisait dans ce jardin et qu'est-ce que l'on voulait montrer ?
Alors, le jardin est effectivement un lieu de pouvoir parce que jusqu'à l'introduction du jardin public, c'était un lieu essentiellement privé et qui était réservé aux personnages importants, aux princes, aux rois ou en tout cas aux notables, parce qu'il fallait pouvoir se permettre un jardin, il fallait pouvoir maîtriser l'eau. Donc c'est vraiment un lieu de pouvoir. Alors ces gens importants, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur jardin ? Ils y avaient à la fois des pratiques intimes, parce que c'est justement un lieu de sensualité. Donc ils aimaient.
C'est un jardin amoureux, quoi.
C'est un jardin amoureux, oui. On a des miniatures qui sont très explicites, oui. Voilà, donc des rencontres amoureuses, mais on pouvait aussi y faire des repas champêtres avec des intimes, y écouter de la musique. Il y a beaucoup de scènes de concerts dans des jardins, mais c'est également un lieu d'ostentation où on reçoit les ambassadeurs, où on leur montre le pouvoir, où on fait de grandes fêtes, mais montrer son beau jardin, c'est l'équivalent de montrer les plus belles salles de son palais. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, l'intime et l'ostentation.
Agnès Carayon, une fois de plus, j'ai envie de revenir sur la gestion de l'eau. Plein de choses ont été inventées, que ce soit le goutte à goutte, que ce soit les rigoles, la vis d'Archimède avait été inventée donc par l'homme du même nom. Mais cette exposition nous renvoie aussi, peut-être, alors très inconsciemment, à la gabegie de flotte que nous, on peut faire dans les pays occidentaux.
Oui, je suis même contente que vous posiez cette question. On a essayé de l'illustrer par quelques œuvres, notamment à l'entrée de l'exposition, on a une très grande photo d'une artiste émiratie qui s'appelle Latifat Ben Maktoun et qui illustre voilà, une oasis qui est complètement desséchée parce que les hommes ont puisé sans fin l'eau qui...
Ils ont tapé dans la ressource, comme on sait faire,
voilà,
jusqu'au bout. Et...
Tout à fait. Et à la fin de l'exposition, on évoque un projet de Rachid Koraïchi que vous pourriez voir là. Qui, lui, a recréé une palmeraie à partir de rien et qui veut vraiment montrer qu'on peut, avec une utilisation économe et savante et en s'insérant dans le confort moderne, mais en respect de la nature, créer quelque chose de totalement foisonnant à partir de rien. On a voulu aussi, je vous avoue, à un moment donné, on avait des contre-exemples. Parce que voilà, dans la dernière partie, on montre des bons modèles, voilà, qui illustrent le fait que le jardin d'Orient peut être un modèle et une source d'inspiration dans une idée de durabilité. On s'est posé la question à un moment donné si on pouvait pas montrer des contre-exemples. Voilà, les golfs au Maroc qui sont arrosés du matin au soir.
Bah en France, vous pouvez y aller aussi.
Oui, bon, disons que.
Pour certains, parce qu'ils ont fait des progrès, mais enfin quand même.
C'est vraiment une quelque chose qu'on a voulu montrer dans l'exposition et la dernière partie arrive là-dessus. Voilà, c'est justement montrer que ces jardins-là, depuis la nuit des temps, étaient économes. Ils savaient gérer l'eau, cette ressource absolument précieuse, qu'ils savaient choisir les plantes qui allaient bien et que on peut se servir de ça pour créer des choses totalement contemporaines et très belles.
Les jardins d'Orient, donc cette manifestation à l'Institut du Monde Arabe, donc d'un côté l'exposition, de l'autre les jardins qui ont été dessinés par Michel Pena et François Bellanet, donc là aussi c'est un régal. Les odeurs elles en ont pris un petit coup, hein, mais là maintenant ça y est, et que nous avons un vague temps qui ressemble à quelque chose, et ben c'est très très agréable. Merci à vous donc Agnès Carayon, et puis donc il y a aussi le document hein, sur le livre sur les jardins d'Orient qui est sorti en même temps, donc là, vous l'ouvrez, et une fois de plus, c'est des odeurs, c'est de l'intelligence, c'est de la culture, c'est du partage. C'est le cas aussi avec Patrick Scheder. Alors Patrick Scheder, en fait, il est musicien. Et puis Patrick Scheder, il a créé Musique au Jardin avec Monique Scheder. Alors, Musique au Jardin, en fait, c'est né comment, ce mariage du jardin et de la musique ?
Bonjour Denis. Eh ben je sais pas. En fait, ça m'est tombé dessus il y a 11 ans à l'origine, voilà. Donc j'ai créé ces spectacles avec Monique. C'est une intuition fulgurante. Je connaissais pas beaucoup le monde du jardin, mais j'ai surtout découvert le monde des jardiniers. Et ça m'a plu encore plus que le jardin, parce que les relations humaines et la philosophie qui se dégage de la fréquentation de la terre, finalement, avec la tête dans les nuages, parce que les bons jardiniers sont toujours des grands rêveurs et en même temps très pragmatiques. Ça me plaît parce que ça me correspond. Et j'ai été subjugué de voir que cette philosophie, elle venait, elle mûrissait, elle se construisait dans le jardin. Alors ça m'a posé beaucoup de questions humaines. Et puis, j'ai cherché à tirer une philosophie de ça, à comprendre. Voilà. Alors, j'ai recherché aussi dans l'histoire. J'ai cherché du côté de Leonaud, de Louis XIV, de Léonard de Vinci, de maintenant, avec Gilles Clément.
Alors, il y a un fil conducteur, quand même.
Ouais, c'est ça, oui. C'est un peu l'humanisme du jardin.
Et c'est pour ça que vous dites que le jardinier est un honnête homme du XVIIe siècle.
Ouais, parce que je crois que c'est intéressant, notamment entre Leonaud et Louis XIV, qui sont restés amis pendant 30 ans. Pourquoi ? Alors que Louis XIV a viré ses décorateurs, et on faisait pas long feu avec lui. Et je pense, moi je fréquente beaucoup les services espaces verts des villes, que le jardinier, il se la pète pas. C'est important. Il se met pas en avant sans cesse avec un ego démesuré. Et c'est ce qui a dû plaire à Louis XIV. Alors, je pense que Leonaud était un très bon courtisan, mais aussi qu'il était lui-même. Et on voit les voyageurs se promener, Louis XIV et Leonaud, dans les allées, tous les deux. Des courtisans qui devaient baver d'envie alors qu'eux étaient nobles. Lui, il l'était pas. Voilà. Pourquoi ? Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les services espaces verts, quand il y a une gestion de l'espace public qui est vraiment de haute qualité et inspirée, c'est toujours une histoire d'amour, entre guillemets, entre le chef du service espaces verts et l'élu.
Alors on peut aller même plus loin. C'est-à-dire que là, Pierre Rabhi nous dit que manger est aussi un acte de résistance et jardiner également.
Oui, parce que c'est aller dans le sens de la vie. Ça, on a beaucoup parlé avec Gilles Clément. Et je lui ai demandé l'autre fois, mais pourquoi jardiner, on se sent si bien après ? Il disait, c'est sûrement parce qu'on ne pense pas au passé, on passe au futur. La nostalgie sert absolument à rien. Voilà. Donc on va dans le sens de la vie. Moi, c'est ce que j'appelle le bon sens. Alors le bon sens, ça n'a pas bonne presse, parce qu'on dit, ouais, c'est le bon sens paysan, on n'en est plus là. Mais je pense que le bon sens, c'est ce qui va dans le sens de la vie, et le mauvais sens, c'est ce qui nous fait mourir quand même. Ou alors... Bon, j'ai rien compris peut-être.
Quand vous évoquez l'herbe folle, qu'est-ce que c'est ?
Je dirais que c'est la nature en liberté. C'est un concept qui est très ancien parce que je me suis attaché à lire l'encyclique du pape cet été. Et grande surprise, parce que moi j'admire beaucoup Saint François d'Assise. Et il rappelle que Saint François demandait à ce qu'il y avait un jardin dans le monastère de franciscains, qui est un endroit où on ne fasse rien. On laisse la nature évoluer, on regarde la création évoluer. Je trouve ça super. C'est quelque part aussi un rappel du jardin en mouvement de Gilles Clément. C'est aussi ce que disait Georges Sand. Dans tout jardin, il y a une partie qui nous sert à manger pour le plaisir. Une autre partie, on regarde et on s'émerveille. Moi, par exemple, en tant que pianiste, je fais un métier qui est plutôt surévalué. Être pianiste, hein, c'est mythologique. Bah, être jardinier, à mon avis, ça l'est autant.
Quelques notes de Chopin interprétées par Patrick Scheider. Donc c'était Printemps, puis je vous renvoie donc à ce livre. Hein, ce fil conducteur d'aujourd'hui, c'était Les Jardins. Ça ne vous a pas échappé. Des Jardins et des Hommes aux éditions Bayard, avec les quatre intervenants que vous avez entendus au cours de cette émission. Et la semaine prochaine, oh bon, ce sera autre chose. On va parler sûrement de la cause des vaches avec Christian Laborde. Et nous irons en Guadeloupe parler de la grive à papate ou à pied jaune. Nous parlerons d'une tour en bois. C'est intéressant, une grande tour construite en bois en France. C'est-à-dire que les industriels du bâtiment s'y mettent. Voilà, donc ça va être un magazine complètement différent, comme on aime le faire toutes les semaines. Merci à Ludovic Asselot, Arnaud Caillet à la technique, à Claire Destacan, à Xavier Pestugia qui réalise l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Sur le site, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez bien sûr vous exprimer comme vous le désirez. Et puis, vous avez pas mal d'éléments. Et puis donc demain dimanche, 7h55, Alain Bougrat-Dubourg chez Patricia Martin, Nathalie Fontrelle qui nous parle d'environnement à 7h20 du lundi au jeudi. Et puis, la tuile du Bon Petit Loup, ce sera 19h54, me semble-t-il, après les petits bateaux demain.